Ésaïe 51, si vous voulez vous y tourner avec moi. Nous approchons de la dernière partie, nous sommes dans la dernière partie du livre d'Ésaïe, avec le chapitre 51. Nous allons, dans quelques temps, arriver à un des sommets de la Bible, avec la description des souffrances du Messie, dans le chapitre, enfin, du chapitre 52, chapitre 53. On va voir le chapitre 55 où le salut est offert à tous. Il y a une édition de la Bible qui s'appelle la Bible Ésaïe 55 parce que justement c'est le sens de toute la Bible qui est révélée dans ce chapitre. Puis nous voyons des prophéties messianiques, des prophéties du règne du Messie, de Jésus sur la terre. Et donc, nous entrons vraiment dans une partie qui va vous bénir, je crois, qui me bénit en tout cas, et qui a béni des millions de chrétiens avant nous. Le chapitre 51, c'est encore une fois, c'est une prophétie, et il y a des fois ce qu'on appelle le passé prophétique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont décrites au passé, parce que l'auteur, lui, se place déjà dans un futur lointain et peut regarder en arrière certains des événements qui, pour nous, sont encore futurs. J'espère que vous êtes totalement confus maintenant. C'est comme si quelqu'un se met en 2020 et regarde les événements qui vont se produire en 2011 et en parle au passé. Pour nous, c'est encore le futur. C'est plus clair ? Voilà. Et donc, il va parler de la libération des Juifs qui étaient à Babylone, en captivité, mais il s'adresse à eux comme étant, il les voit dans le futur, découragés. Et nous savons que c'est souvent l'arme favorite de Satan. Il a quelques flèches, un peu toujours les mêmes, la tentation, etc. Mais une de ses flèches favorites, c'est le découragement. Parce que lorsqu'on est découragé, on est tellement tenté de laisser tomber la démarche chrétienne et de revenir à notre vie de non-croyant, revenir au péché. Et là, nous allons voir comment Dieu va réconforter ceux qui ont tendance à être découragés. On va lire ensemble à partir du verset 1 du chapitre 51. Je lis. « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car quand il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel console Sion, il console toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle. Les chœurs et le chant des psaumes, donne-moi ton attention, mon peuple. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et je ferai jaillir mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, puis regardez en bas sur la terre, car les cieux se dissiperont comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice ne faiblira pas. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas le déshonneur de la part des hommes, et ne tremblez pas d'être bafoué par eux. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la mite les dévorera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra de génération en génération. Nous allons nous arrêter là. Ce premier passage, vous avez peut-être remarqué, il y a trois interpellations. C'est le Seigneur qui parle par la voix de son prophète et qui dit « Écoutez-moi ». Puis plus loin, verset 1, « Écoutez-moi ». Verset 4, « Prêtez-moi l'oreille ». Et puis finalement, verset 7, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, etc. » Le Seigneur veut qu'on l'écoute. Il a des choses à nous dire par sa parole, et aussi dans le silence de nos cœurs, dans le silence de nos moments devant lui. Il veut nous parler. Trop souvent, quand notre prière, c'est de parler et de parler, de lui dire tous les besoins que nous avons, comme s'il n'était pas conscient de ses besoins. Dieu a cette particularité qu'il peut s'occuper du grandiose, du général, comme du particulier. C'est ce qui donnait le vertige même à l'auteur français Pascal quand il parlait des deux infinis, qui avaient l'infiniment petit et l'infiniment grand, et que Dieu s'occupait des deux et de tout ce qui était entre les deux. Il n'y a pas des choses trop petites pour Dieu, il n'y a pas trop des choses trop grandes pour lui. Il veut encourager donc ces juifs qu'il voit déjà prêt à être rapatrié ou à revenir de l'exil dans le futur. Et à travers ces gens découragés, c'est à nous qu'il veut s'adresser. La Bible est un livre, certes, basé sur une histoire, mais qui a une temporalité présente. À chaque moment, ce que Dieu nous a dit dans le passé, ça s'applique. Et ça, c'est un grand principe lorsqu'on étudie la Bible, de ne pas le prendre comme simplement un livre d'histoire, mais de voir qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui. Dieu qui me dit « Écoute-moi ». Et là, il va d'abord leur parler de regarder un peu en arrière. Et souvent, le Seigneur nous demande, quand on est découragé, de regarder un peu le progrès qu'on a fait. Pour ceux qui apprennent les langues, par exemple, je dois le faire avec Karine. Elle est à peu près débutante un petit peu. Elle va étudier au Kuffel, à la fac. Et je suis sûr qu'il va y avoir des moments où elle a l'impression de ne pas progresser. Et dans ces moments-là, il est bon de s'écouter. Donc je vais essayer de l'enregistrer, de faire un petit entretien avec elle. Pour que dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, elles disent « Oh, c'est pas possible, les progrès que j'ai faits. » Et le Seigneur, il veut aussi nous encourager. Ce flashback qu'il m'a donné tout à l'heure où je me disais « C'est beau de voir une congrégation qui loue le Seigneur de tout son cœur, dans des lieux qui ont été aménagés. » Alors que pour ceux qui ont connu les lieux, c'était vraiment pitoyable. Et donc, il leur dit, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, donc c'était des croyants qui voulaient faire honneur à Dieu, il leur dit, portez les regards sur le rocher. Alors vous dites, ah, le rocher c'est Jésus, 1 Corinthiens 10, 4, suivant, d'où vous avez été taillé. Non, le rocher, là, il l'explique plus loin. Le rocher dont ils ont été taillés, le creux de la fosse dont ils ont été tirés, ce sont leurs ancêtres, Abraham et Sarah. Abraham, le père de ceux qui ont la foi, Sarah, sa femme, eux qui étaient un vieux couple, qui étaient isolés. Dieu les a utilisés de façon fantastique. Ils n'avaient plus beaucoup de ressources, même si Abraham était un homme assez riche. Au niveau physique, pour avoir une descendance, une postérité qui serait aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur la mer, sur les plages de la terre, plutôt, c'était vraiment un peu fort de café, un peu inimaginable, un peu incroyable. Et pourtant, il a appelé Abraham, il l'a béni, il l'a multiplié par le peuple juif, par ceux qui ont cru, et il est aussi l'ancêtre de tous ceux qui croient, nous est-il dit dans le Nouveau Testament. Peut-être vous avez une situation où vous vous trouvez isolé, peut-être que vous êtes collégien ou étudiant et il n'y a pas beaucoup de croyants avec vous dans votre environnement, au travail vous êtes le seul. Il y a des plaisanteries qui fusent sur la foi, sur l'immoralité, et vous êtes seul à... Vous n'osez peut-être pas trop, mais Dieu dit qu'il peut vous appeler, il va vous bénir, il va vous multiplier. Ça veut dire qu'il peut vous utiliser pour répandre la bonne nouvelle, répandre le salut. Et ça, c'est quelque chose... Pour nous qui sommes peu nombreux en France, on a l'impression qu'il ne va jamais y avoir de réelle transformation de notre pays par l'Évangile. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Dieu peut utiliser quelques personnes, une seule personne, il peut utiliser quelques pains, quelques poissons et multiplier et faire un grand changement. C'est Jonathan, je crois, qui disait à son aide de camp, viens, on va aller pénétrer en territoire ennemi parce que le Seigneur peut agir avec beaucoup ou avec peu. Et je crois que le Seigneur vous dit, écoute-moi, toi qui as l'impression d'être seul, toi qui as l'impression d'être faible, je t'appelle et je vais t'utiliser et tu vas être surpris des résultats. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de vos pensées? Alors le danger, c'est de dire, ah oui, je veux être utilisé par le Seigneur pour que tout le monde m'admire et me dise non. Est-ce que vous êtes prêt à rester dans l'anonymat? Est-ce que vous êtes prêt à rester inconnu, mais que lui soit connu? Si c'est ce qui anime votre cœur, je peux vous garantir qu'il y a des choses devant vous qui vont vous surprendre. Il a utilisé Sarah, qui avait passé l'âge de la procréation. Il a utilisé Abraham, qui était si faible que lui-même ne pensait pas jamais pouvoir avoir encore d'enfant. Et il les a bénis, et ça doit nous encourager. La seule qualification d'Abraham... c'était que le Seigneur l'avait appelé. Il y a une puissance dans l'appel de Dieu. Et l'appel, ce n'est pas quelque chose de mystique. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous a appelé déjà. Ce n'est pas quelque chose de... j'ai été appelé. Ça attriste tellement le Seigneur, cette recherche de propre gloire. Le Seigneur, il veut que vous oubliez et que vous décroissiez pour que lui croisse. Et ça, c'est l'appel à l'Église en France aujourd'hui. Le laisser croître et nous laisser décroître. Il leur dit, si vous trouvez âgé, sachez qu'il console toutes ces ruines. Non, c'est une plaisanterie, c'est le verset 3. Il console Sion, il réconforte. Sion, c'est Jérusalem. C'était la colline de Jérusalem où David avait construit son palais. Il rendra son désert semblable à l'Éden et sa steppe au jardin de l'Éternel. La gaieté et la joie se trouveront au milieu d'elle, les chœurs et les chants des psaumes. Dieu parle d'Israël. Dieu n'a pas fini avec son peuple, le peuple juif. Il y a eu une tendance à poussée par un antisémitisme sous-jacent depuis que l'homme a été créé, que Satan a voulu contrecarrer les plans de Dieu, mais le peuple juif a une destinée, ça a été, Dieu la lui a promise et il va l'accomplir. Nous avons été greffés, nous avons été mis sur cette plante que le Seigneur avait d'abord plantée. Nous allons être bénis. Nous sommes les îles dont il parle, les païens au loin. Mais ne laissez pas certains enseignements qui vous disent que Israël a été remplacé par l'Église. C'est faux. Israël va voir un reste de sa descendance venir au Seigneur. Il y a quelques juifs messianiques, mais c'est rien à côté de ce qu'on verra dans la période de la grande tribulation. Et c'est tellement important de comprendre ça. Parce que si Dieu n'est pas capable, j'allais dire n'est pas fichu, pour être très irrespectueux, mais c'est pour vous choquer, de tenir les promesses qu'il a faites à Israël, alors on n'a aucune base pour croire qu'il va tenir les promesses qu'il a faites à l'Église, il a faites aux croyants. Donc lorsque vous dites Israël n'est plus là, vous sabordez votre propre foi. Vous sabordez les promesses sur lesquelles vous devez vous tenir. Vous sciez la branche de Sion sur laquelle vous êtes assis. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est inspiré par Satan. Parce que Dieu a choisi Abraham, il lui a fait ses promesses, la promesse de bénir toutes les nations de la terre, parce que le Sauveur allait arriver par cette branche de l'humanité. Et Satan voulait tout sauf un sauveur qui vienne contrecarrer ses plans. Donc il a suscité, l'Église a été coupable d'avaler et d'adopter cet antisémitisme qui n'a aucune place, absolument aucune place chez le chrétien. C'est vrai de toutes sortes de racisme, de toutes sortes de préjudices, de préjugés, de supériorité raciale, de supériorité de culture, c'est une abomination devant l'Éternel. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous ses enfants si nous venons à lui. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on confond le peuple juif et l'État d'Israël. L'État d'Israël est malheureusement pas un peuple, un État religieux, enfin malheureusement, dans notre société, c'est un État laïque qui a des politiques qui ne sont pas nécessairement les politiques que Jésus voudrait ou les politiques, mais de grâce, pas d'antisémitisme du peuple juif parmi nous. Et donc, on voit, lorsqu'il parle de Sion, il ne parle pas de New York. Il ne parle pas de Hong Kong, il ne parle même pas de Paris, désolé, ou de Londres, pour nos amis anglais et anglaises. Il parle de Sion, de Jérusalem. C'est d'ailleurs intéressant qu'aujourd'hui encore, les plus grands problèmes, le centre des problèmes, c'est Jérusalem. J'ai toujours été frappé qu'on nous montre à la télé les photos de ce qui se passe au Moyen-Orient et puis on regarde la carte à la fin de la Bible et c'est la même carte. Il n'y a pas un rapprochement à faire. C'est là que tout va se jouer parce que c'est ainsi que Dieu en a décidé. Et là, il dit que l'Éternel, le Seigneur, Yahweh, console Sion, console cette ville. Il va consoler toutes les ruines qui se sont accumulées. Là, il parle d'un exaucement de cette prophétie qui va se passer lorsqu'ils vont revenir de Babylone. Il va rendre le désert semblable à l'Éden, au jardin du paradis, sa steppe au jardin de l'Éternel. Il va y avoir la gaieté, la joie, les chœurs, les chants. Waouh! Sacré programme. Est-ce que cette prophétie, elle a été en partie réalisée lorsque les exilés sont revenus de Babylone? Elle est en partie réalisée ici, aujourd'hui, là-bas plutôt à Jérusalem, dans l'État d'Israël, depuis 1948. C'était une zone de marécage, c'était une zone dont personne ne voulait. Les Palestiniens ne cherchaient pas à habiter la région à l'époque. Ce sont des réfugiés des autres de la Cisjordanie qui sont maintenant en lutte, soi-disant, pour l'État d'Israël, pour la terre d'Israël. Ces territoires insalubres, marécageux ou désertiques ont été transformés par des gens qui avaient une vision de reconquérir la terre promise, au point qu'aujourd'hui, Israël, ce tout petit État, on conduit dans la journée d'un bout à l'autre, on traverse en quelques heures, ce tout petit État est un des plus grands producteurs de produits agricoles du monde, notamment, surtout dans le domaine des fruits, les agrumes, c'est le troisième producteur mondial. La prophétie s'est en partie réalisée. Je me souviens lorsqu'on était, il y a quelques mois, en Israël, lors d'un voyage, notre guide nous disait « on ne mange pas des fruits, on mange des prophéties accomplies. » Et quand on mange ces bons fruits d'Israël, ces gros fruits d'Israël, on dit que les promesses de Dieu, c'est quelque chose sur lesquelles on peut compter. Il les encourage donc en disant, et de façon ultime, cette prophétie sera réalisée lorsqu'il y aura le retour de Jésus pour régner pendant 1000 ans. Il leur dit, donne-moi ton attention, écoute-moi encore ma nation. La loi sortira de moi, je ferai jaillir mon jugement pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître. Là, il parle de qui ? Il parle du Messie qui va arriver. On va avoir cette description encore plus frappante, plus saisissante dans Ésaïe 53. Et ses bras jugeront les peuples. Les îles, c'est nous. Pas parce qu'on est près des îles de l'Hérens, mais c'était les territoires, les contrées qui étaient au loin, au-delà de la mer. Si c'était au-delà de la mer, c'était pour eux, on voyait une terre au loin, c'était comme une île. Ils vont se confier, ils vont espérer en moi, ils vont se confier en mon bras. Ça, c'était incompréhensible pour les Juifs à l'époque, de penser que Dieu allait ouvrir son amour, sa compassion, ses prophéties, ses promesses aux païens. Ça dépassait les Juifs. Mais Dieu l'affirme déjà dans l'Ancien Testament, dans plein de passages. Puis il leur dit de lever les yeux. Là, il leur disait de regarder en avant. Là, il leur dit de lever les yeux vers le ciel. Puis regarder en bas sur la terre. Car les cieux vont disparaître comme une fumée. La terre va tomber en lambeaux comme un vêtement. Ses habitants périront comme les mouches. Mais mon salut durera éternellement, ma justice ne faiblira pas. Qu'est-ce qu'il leur dit là ? Il leur dit, vous pensez à des choses permanentes et vous vous dites, il y a les étoiles dans le ciel. On sait qu'on peut se diriger, que la grande ours est toujours pointée vers l'étoile polaire qui est au nord, géographique. On peut naviguer dans des milliers d'années, rien ne bouge dans le ciel. Il leur dit, erreur. Ce qui vous paraît immuable, ce qui vous paraît si solide, ça va se dissiper comme un rideau de fumée. Vous dites, la terre, ça c'est du solide. Moi je ne vais pas investir dans la boue, je vais investir dans le foncier, dans la terre. Si j'ai du terrain, ça bouge pas, ça reste. Il dit non, la terre va tomber en lambeaux comme un vêtement. Mais mon salut, lui, il demeure éternellement. ma justice, mes principes qui font que quelqu'un qui suit cette justice ressemble et plaît à Dieu, ça va pas bouger, ça va pas faiblir. Je vais pas dire, oh, maintenant on est au 21e siècle, c'est bon s'il y a des hommes qui se marient entre eux ou des femmes qui se marient entre elles et qui adorent. Non, ma justice, elle va rester la même. Il n'y a pas d'accommodation à la société parce qu'on est évolué, on a, la Révolution française est passée par là, il y a maintenant les droits de l'homme. On fait ce qu'on veut, puis si ça vous embête, tant pis. Vous n'allez pas m'imposer votre moralité. C'est pas ma moralité, c'est la justice de Dieu qui, elle, va durer éternellement. Les mêmes principes avec lesquels il jugeait ces gens, ils vont continuer, ils sont valables pour nous. Ça, c'est cette description de la terre qui va, les cieux qui vont se dissiper, la terre qui va disparaître telle qu'elle est. Ça, c'est une constante qu'on retrouve dans, une description qu'on retrouve dans tout le Nouveau Testament même. Jésus disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. D'où l'importance de connaître cette parole. D'où l'importance de venir à cette étude biblique. Je plaisante, mais est-ce que pour vous, la parole de Dieu, la connaître, la mettre en pratique, la vivre avec, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est plus important de réussir dans votre travail, dans votre famille, même votre famille? Est-ce que la parole de Dieu, elle va vous dire de prendre soin de votre famille et d'en faire une priorité? Mais est-ce que Dieu et sa parole, est-ce que c'est votre première priorité? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pierre aussi disait dans 2 Pierre 3, il reprend les gens qui disent, vous nous parlez du retour de Dieu, de son intervention dans la vie, qu'il est réel, qu'il va intervenir, mais depuis le temps que vous en parlez, on ne voit rien se passer. Et il dit, certains diront, où est la promesse de son avènement, 2 Pierre 3, 4, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Et là, il leur dit, en effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Et il leur dit, c'est là ce fameux point, ça vous paraît ne pas arriver, mais rappelez-vous, que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur, verset 9, ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On a un petit aperçu de ce que peut être un séisme, une chose de cette importance avec ce qui s'est passé en Haïti en un instant. 150 000 personnes tuées. Là, en un jour, les cieux vont passer avec fracas, la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Par contre, le salut de l'Éternel, Jésus, lui, demeure, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Vous pouvez compter sur ça pour votre vie. Vous pouvez fonder votre vie, votre carrière, tout ce que vous allez faire dans le futur, prenez ça en compte. Ce qui compte, c'est pas la richesse physique, c'est votre relation avec Dieu. Et de là découlent toutes les bénédictions. Verset 7, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas le déshonneur de la part des hommes. » Ça, c'est aussi une autre source de découragement. découragement de se sentir, on a vu, seul, sans ressources, peut-être vieux, peut-être inadéquat. Désespoir parce qu'on se dit que bon, les choses que Dieu dit, c'est pas nécessairement permanent, si ça l'est. Et puis il y a la peur de ce que pense l'homme, la peur d'être bafoué, de craindre le déshonneur de la part des hommes. Parce qu'il leur dit, vous avez peur de dire à vos collègues de travail que dimanche matin vous étiez à l'église, que vous avez la foi, que pour vous Jésus est vivant, qu'il est votre sauveur. Pourquoi est-ce que vous avez honte de le dire? Pourquoi est-ce que vous avez peur de faire savoir que vous êtes chrétien? Et il donne une des raisons presque... Il y a toujours un peu d'humour, le Seigneur aime l'humour. Il leur dit en fait, ces gens dont vous avez peur, c'est de la nourriture pour les vers. Ce patron que vous redoutez, dans quelques dizaines d'années, il sera mangé comme un vêtement. Vous avez peut-être un beau pull que vous avez laissé dans un placard, vous le sortez quand il commence à faire froid et vous voyez qu'en fait il est bien aéré. Il y a des trous involontaires créés par des mythes, par des vers. Et on a peur de l'homme et on n'a pas peur de Dieu. On fait tout à l'envers. Il nous dit, quand les hommes vous font peur, réalisez qu'en fait, ce n'est qu'une question de temps et ils iront nourrir les mythes, les lombriques, les ténias, tous les... Par contre, ma justice, elle dure éternellement. Mon salut s'étendra de génération en génération. Et nous en sommes une preuve. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que son salut est éternel. Malgré les attaques contre l'Église, la foi s'est perpétuée. Pas beaucoup de monde peut-être, mais toujours cette possibilité pour chacun, pour quiconque recherche le Seigneur, de le trouver dans sa parole et dans l'Église. Il va continuer en invoquant un réveil. On va aller un peu plus vite. Il leur dit, verset 9, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. » C'est le peuple qui parle à Dieu et qui dit à Dieu de se réveiller. Des fois, c'est un peu ce qu'on parle lorsqu'on dit « on va prier pour le réveil ». On va prier pour que Dieu bouge les choses un peu. En fait, quand on prie ça, réellement, on se dit « c'est notre réveil qui est nécessaire ». Dieu est toujours là, on l'a rappelé la semaine prochaine. Il ne bouge pas. Il est toujours à portée d'une prière, il est toujours plus proche qu'on ne croit de nous. Et on va voir comment le Seigneur va leur répondre. Mais là, ils lui disent, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois. Toujours une bonne chose de se rappeler comment le Seigneur a agi dans le passé. Et Seigneur, tu as agi dans le passé, continue d'agir dans le présent. C'est une prière que Dieu aime, se plaît, se complaît à exaucer. Au temps des générations passées, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte? Certains de vos livres peuvent dire Rahav ou Rahab, qui était un nom pour l'Égypte, ça veut dire orgueil, qui transperça le monstre. Le monstre, ça peut être soit le serpent qui est Satan, soit le crocodile qui était une représentation aussi de l'Égypte. Mais il fait allusion à leur salut par le passage de la mer des joncs. N'est-ce pas toi qui as mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Ainsi, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils arriveront dans Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Le chagrin et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console, Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils d'Adam dont le sort est celui de l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu serais dans une frayeur continuelle tout le jour devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Oui, donc la fureur de l'oppresseur, bientôt celui qui est courbé dans un cachot sera élargi, sera libéré. Il ne mourra pas dans le gouffre et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui agite la mer et fait mugir les flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main en étendant un ciel et en fondant une terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Le peuple dit à Dieu de se réveiller. Le prophète répond en disant, rappelez-vous, il leur promet que ceux qui ont été libérés par le Seigneur de l'esclavage en Égypte, ils vont être libérés de l'esclavage à Babylone. Encore une fois, il leur dit, n'ayez pas peur de l'homme. Le fils d'Adam, l'homme, son sort est celui de l'herbe. On se prend très supérieur à un brin d'herbe. Mais en fait, notre existence est tellement brève qu'on peut la comparer à l'existence de l'herbe qui est là le matin et qui le soir a fané. C'est qu'une question de multiplication du temps, au lieu d'être quelques heures, un jour ou deux, ou quelques jours, c'est quelques décades, et puis on n'est plus rien, on est parti. On a peur de l'homme et on oublie Dieu. Et encore une fois, dans ce livre d'Ésaïe, le prophète et Dieu nous parlent, ne m'oubliez pas, pensez que je suis là. Vous êtes submergés par la peur pour les hommes et vous n'avez aucune peur pour moi. Je suis l'Éternel ton Dieu qui a mis les cieux, qui a créé les cieux. C'est moi qui ai suspendu les étoiles. J'ai mis en route les galaxies avec une pichenette de mon petit doigt. Et vous avez peur. Vous avez peur de ce que vous allez manger demain, où vous allez être logé, comment vous allez être vêtu. Et Dieu nous dit, je suis là. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dieu leur répond, verset 17, là encore on voit le sens de l'humour de Dieu, qui leur dit, réveille-toi, toi, qui me dit de me réveiller. Moi j'ai jamais fermé l'œil. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur, qui a bu, qui a vidé le fond de la coupe d'étourdissement. Cette image de la coupe de la fureur, c'est une façon de parler des épreuves. Boire la coupe, c'est un peu comme dans ces films de science-fiction où il y a dans un ballon de chimiste un peu fou, il y a ce mélange qui bouillonne et qui fait des fumées verdâtres. Il faut boire cette coupe de l'étourdissement, cette coupe de la fureur de Dieu. C'est un jugement. Il parle de l'exil duquel il souffre en ce moment. Donc, encore une fois, l'exil qui est prophétisé et la libération de l'exil qui est prophétisé dans Ésaïe, il lui dit, lève-toi Jérusalem, tu as bu, tu as vidé le fond de la coupe d'étourdissement, ce jugement de tous les fils, verset 18, de tous les fils qu'elle a enfantés, il n'y en a aucun pour la conduire, de tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main, ces deux choses se sont arrivées, qui te plaindra, le ravage et la ruine, la famine et l'épée? Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue comme une antilope dans un filet, chargés de la fureur de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi écoute ceci, malheureuse, ivre mais non devin. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend la cause de ton peuple. Voici que je prends de ta main la coupe d'étourdissement, le fond de la coupe de ma fureur, tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de ceux qui t'affligeaient, qui te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu rendais alors ton dos semblable à la terre et à la rue pour les passants. » Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit qu'il y a eu un jugement et qu'il va faire terminer ce jugement. Je reprends cette courbe d'étourdissement. Tu ne la boiras plus. C'est tes ennemis qui vont subir mon jugement. Et puis verset 1 du chapitre 52, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, Sion, revêt tes habits d'apparat, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, relève-toi. Assieds-toi, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi il parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, d'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien, et maintenant qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé ? Ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel, et tout le jour mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux elles voient l'Éternel revenir à Sion, éclater ensemble en cris de triomphe, ruines de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui sortez les vases de l'Éternel, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous et le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Dieu continue à les réconforter en leur montrant d'où ils sont venus, ce que Dieu va faire, qu'ils peuvent lui faire entièrement confiance, que tout le reste va passer, que sa parole, que sa justice, son amour vont demeurer, son salut qui va bientôt paraître, vont être des choses éternelles. Et il dit, et il nous dit de nous réveiller. On se laisse endormir. On se laisse aller au train-train, au statu quo, que ce soit dans la vie physique, que ce soit dans nos habitudes bonnes ou mauvaises, que ce soit surtout dans le domaine spirituel. C'est bien lorsqu'on prend de bonnes habitudes, c'est beaucoup moins bien lorsque on régresse et qu'on est moins zélé pour le Seigneur, qu'on prie moins, qu'on a plus cette On n'entretient plus cet amour, ce feu dans nos cœurs. Il leur dit, tu peux t'habiller, Jérusalem, tu vas être belle de nouveau. Et là, il lui dit, tu peux enlever tes liens de captifs. Souvent, les liens ont été brisés à la croix et nous, on garde les liens. On pense qu'on est toujours prisonnier du péché. Il leur dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et c'est ça le plus terrible. C'est qu'on se met nous-mêmes en esclavage vis-à-vis de Satan. On est prêt à donner notre âme pour des babioles, pour des choses qui sont que des mirages, pour des choses qui ne sont que des promesses de joie mais qui n'ont aucune réalité. C'est l'attrait du péché. Et on est prêt. Et il y a malheureusement des exemples constants dans la vie de chrétiens, des gens qui, pour céder à la tentation au péché, sont prêts à vendre leur âme. Et il leur promet, vous avez été vendus gratuitement, vous êtes laissés avoir pour rien du tout. Satan vous a dit, viens, on est venu. Il a dit, mange, tu verras, c'est, oh, viens, péché. Puis vous avez réalisé qu'en fait c'était un piège, que ce péché qui apparemment allait vous porter de la joie n'apporte que de l'amertume. Il n'y a rien eu en échange. Vous avez cédé à Satan, mais vous n'avez rien reçu en échange. Et il leur dit, vous allez être rachetés. C'est le concept du Goël, de celui qui est un proche parent. On a parlé de ça plusieurs fois. Un proche parent qui a les moyens et qui a le désir, la volonté de vous sortir de l'esclavage ou de vous donner une postérité ou de racheter un terrain. Vous allez être rachetés gratuitement. Vous avez cédé à Satan gratuitement, mais le Fils de Dieu qui s'est fait homme est mort pour vos péchés et il vous rachète gratuitement. Vous n'avez rien dépensé. C'est lui qui a payé le prix. C'est Dieu dans son amour qui paye le prix et qui nous dit maintenant, on verra ça au chapitre 55, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous venez acheter du pain, du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Il leur rappelle l'esclavage en Égypte, l'esclavage par les Assyriens, c'était le royaume du Nord, l'esclavage par les Babyloniens. Son nom, le nom de Dieu était blasphémé, le nom de Dieu a été méprisé, mais il y a cette prophétie, son peuple déjà va connaître son nom, et puis ils vont publier les bonnes nouvelles dans le monde entier. Et c'est ce que Dieu demande à l'Église, c'est ce que Dieu demande à chaque chrétien, de publier la paix, de dire aux gens, vous pouvez avoir la paix avec Dieu, vous pouvez avoir la paix dans vos familles, dans vos ménages, dans votre travail, dans votre pays. Et il y a ce passage qui est repris dans plusieurs autres passages de l'Ancien Testament et dans Romains 10, 15, l'apologie des pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui les utilisent pour annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai que généralement, à moins d'être un peu bizarre, quoi, on n'a pas de photos de ses pieds qu'on met au mur. Si vous voyez quelqu'un, vous allez chez quelqu'un qui a des photos de pieds au mur, vous allez dire « je dois repartir très vite, au revoir ». Mais Dieu dit qu'en fait, c'est la plus belle chose lorsque ses pieds sont les pieds de ceux qui bougent vers les autres, de ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle, les très bonnes nouvelles. Est-ce que vous réalisez que vous avez une très bonne nouvelle à donner aux gens qui vous entourent? Et puis il y a une vision qui était partiellement réalisée au retour, avec les sentinelles qui attendent le peuple. Mais il est dit, et là le prophète bondit jusqu'à la fin de... des temps avec le retour de Jésus, elle voit revenir l'Éternel qui revient à Sion. Jésus ne va pas aller à Paris, peut-être il passera. Il ne va pas aller à Rome, peut-être il y passera. Il va revenir à Jérusalem. Ça, ce n'est pas une allégorie. Ça va, je vous garantis que ça va se passer comme il est dit dans la ville de Jérusalem. Et là, les gens verront la puissance de Dieu. L'autre jour, j'avais Evans, le papa de Diana, et Evans Junior qui m'a aidé à monter le canapé. On l'avait sorti à deux en haut pour le redescendre ici. Puis je l'ai vu, il le mettait sur lui, et puis il est parti tout seul. Je dis « Attends-moi !» Il a porté le canapé tout seul. J'ai dit, tu es fort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai pris le biceps. J'ai dit, waouh, tu es costaud. Donc, si vous avez besoin d'aide pour déménager maintenant, je ne veux pas l'embarrasser. Mais ça, c'est la même image. Dieu va montrer son bras. Il va montrer son biceps. Son biceps qui est capable d'accomplir n'importe quoi. dans le sens, il n'y a pas de limite à sa puissance, pas dans le sens de faire des choses bizarres ou inutiles. Il est puissant. Et ça, c'est une très belle façon, le bras du Seigneur. Nous chantons, nous voulons être dans tes bras d'amour. On ne veut surtout pas qu'il serre trop fort, parce que ses bras, ils ont mis en orbite les galaxies. Ses bras, ils sont capables d'accomplir ses promesses. Vous pouvez compter sur son bras. Vous pouvez compter sur sa force. Et c'est un bras de sainteté. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, parce qu'il y a un moment, il sera trop tard. Mais toutes les langues, toutes les genoux fléchiront, toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Et puis, un dernier conseil dans ce passage. Partez, partez, sortez de là. Dieu doit dire à ceux qui sont captifs, il nous dit à nous qui sommes peut-être captifs de certains péchés, partez, partez, sortez de là. Vous pouvez le faire. Mais peut-être vous êtes tellement habitué, peut-être vous êtes tellement confortable dans cette situation de compromis que vous êtes très bien et vous n'avez pas envie de bouger. Dieu vous dit, sortez de là. Purifiez-vous. Vous qui sortez les vases de l'Éternel, il ramenait les vases qui avaient été pris en captivité, les vases du temple. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. Vous pouvez marcher calmement, tranquillement, parce que Dieu va devant vous. Il va devant nous, il sera notre arrière-garde. Dieu nous invite à agir pour son royaume et il nous dit, ne vous en faites pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis toujours avec vous. C'est moi qui vous précède et c'est moi qui vous suis. Nous n'avons absolument rien à craindre. Nous pouvons vivre à 100% pour son royaume, pour répandre cette bonne nouvelle et libérer d'autres captifs. Amen.